Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. C'est à moi qu'il incombe de vous accueillir. Je suis d'autant plus heureux de vous accueillir que vous êtes fort nombreux. Nous avions prévu une salle suffisamment grande. Eh bien, ma foi, ça y est, nous ne sommes pas trompés dans nos prévisions. Tout d'abord, accueillir les Robertsoviens. C'est vrai que vous êtes les premiers concernés, croit-on en tout cas, lorsque on se renseigne un tout petit peu. Et lorsqu'on se renseigne un petit peu plus, on constate que ce ne sont pas seulement les Robertsoviens, mais également le quartier des 15, c'est également la ville de Strasbourg, et c'est également la CUS qui est concernée. Donc je pense que ce soir, ceux qui sont devant moi sont issus de toute la CUS dans son ensemble. Je suis également fort content de pouvoir accueillir des élus. Madame Christelle Collère, que j'avais aperçue. Madame Christelle Collère, qui est adjointe au maire chargée de l'environnement. Madame Nicole Dreyer, chargée du quartier, adjointe au maire chargée du quartier, m'a dit qu'elle nous rejoindrait dès qu'elle pourrait. Elle est pour l'instant au Vaken. Je voulais également saluer Monsieur Yves Le Talec, conseiller général, qui est des nôtres, ainsi qu'un grand nombre d'élus des communes de la CUS, des adjoints au maire, des maires, et en particulier d'Oberhausbergen. Le fait que ces personnes soient présentes montre bien combien ce problème de la géothermie concerne un grand nombre de personnes. Il ne faudrait pas non plus oublier, bien sûr, les présidents d'associations. Nous avons M. Jean-Luc Dejean, qui est le président de l'ADIC. L'ADIC, je vous le rappelle, c'est l'association partenaire de l'ADIR. Nous sommes, nous, l'ADIR, à la Robertso, et l'ADIC est au quartier des 15. Il n'y a qu'une lettre de différence dans le nom de nos associations. Il est accompagné de Yveline Meuglen et de M. K, qui sont ses vice-présidents. Bien sûr, Luc Verung est là avec tout son staff. Ils sont rassemblés près de la porte. J'espère que ce n'est pas parce qu'ils ont envie de partir tôt. Mais enfin, je crois qu'ils sont par là. En tout cas, ils m'ont déjà signalé que leur petit journal, la Gazette de la Robertso, était sorti aujourd'hui. Voilà donc en ce qui concerne la partie protocolaire. Il ne faut pas oublier non plus nos amis allemands. Nous avons deux personnes du Burger Initiative Gegen Geothermie. Voilà, j'ai su le dire. J'ai répété avec Jean-Daniel Braun pendant 5 minutes, qui nous ont rejoints. Et ils ont d'ailleurs mis un certain nombre de petits panneaux, 2 en particulier. Et comme je ne parle pas l'allemand, je me suis fait traduire. Risse im Haus, cela signifie fissure dans les maisons. C'est bien ça? Bien. Fissure? Oui, c'est ça. Ou crevasse, fissure, ravin. Je ne sais pas quel est le terme exactement employé. Oui, Jean-Daniel? Ah, ça, je ne sais pas. Non, ça, je ne sais pas.
On ne veut pas de pollution dans la nappe phréatique.
Nous ne voulons pas de pollution dans la nappe phréatique. Alors, je pense n'avoir oublié personne. Je pense que toutes les personnes qui sont des personnalités se sont senties accueillies. C'est ça que j'espère, en tout cas. Et surtout, ce que nous voulons, c'est quand même accueillir avant toute chose le public, c'est-à-dire les gens de Strasbourg et de la CUS. 3 petits mots avant de laisser Jean-Daniel Braun s'exprimer. Tout d'abord, je tiens à préciser que nous ne sommes pas des pourfendeurs de la géothermie à la dire. Nous sommes dans une période, au contraire, de transition énergétique et nous pensons qu'il est peut-être intéressant, pourquoi pas, de faire de la géothermie. En revanche, et ça c'est notre propos, nous pensons que c'est le plus mauvais endroit, le pire des endroits où l'on puisse envisager de forer à la Robertso et en particulier au Port-au-Pétrole. Vous le savez, le Port-au-Pétrole abrite un certain nombre d'usines Seveso et nous ne comprenons pas très bien pourquoi on a décidé de faire un forage à cet endroit-là. Le second point sur lequel je voulais insister, c'est qu'au début, nous étions tout seuls. Hein, au mois de mai, avril-mai, Jean-Daniel me dit « Écoute, Jacques, les amis allemands m'ont signalé qu'il y avait des projets de forage à la Robertso. » Nous sommes allés ensemble en Allemagne. Il rigole, vous savez pourquoi, parce que je n'ai rien compris pendant 2 heures. Mais enfin, il m'a traduit.
Je saluais la journaliste des dernières nouvelles.
Bien sûr. Et en fait, ce sont nos amis allemands qui nous ont, je dirais, initiés à ce que c'était que la géothermie profonde. Et ils nous ont rendus attentifs également aux dangers que cela pouvait représenter. Assez rapidement, nous nous sommes renseignés. Nous avons rencontré un certain nombre de personnes, d'experts. Et nous nous sommes aperçus que il y avait des dangers. On ne pouvait pas nier qu'il y avait des dangers. Et nous avons décidé de prendre le dossier à bras-le-corps. Et en particulier, Jean-Daniel Braun s'en est emparé. Alors, un élément important quand même, c'est que lorsque nous étions en Allemagne, nous nous étions aperçus que les élus allemands étaient présents lors des réunions. Et ça, c'était fort agréable. Et ce qui nous a également satisfait, c'est que nous avons pu constater qu'en France, des élus français donc, se sont déplacés, ont demandé à nous rencontrer et même nous ont donné l'occasion de discuter avec eux. Monsieur Fontanelle, premier adjoint, a organisé deux réunions. Nous y avons participé avec beaucoup de plaisir. Pour l'instant, nous en sommes effectivement simplement à réfléchir aux experts que nous pourrions rencontrer pour être mieux renseignés. Mais en tout cas, l'initiative venant de la ville nous a satisfaits, pour l'instant en tout cas. Le troisième point, cela concerne, je dirais simplement, l'avenir. Nous ne savons pas très bien jusqu'où nous allons aller. Est-ce que nous serons satisfaits rapidement? Est-ce que ce projet va être enterré, sans mauvais jeu de mots? Ou est-ce que nous allons devoir continuer très longtemps à nous battre? Dans ce cas-là, eh bien, il faudra bien sûr que nous ayons votre adhésion, une adhésion sous forme déjà de participation de votre part à l'enquête publique. Il faudra que vous y alliez pour marquer votre mécontentement. Et adhésion également d'une manière, je dirais, plus matérielle, en adhérant tout simplement à notre association. Vous avez trouvé sur les chaises des petits bulletins qui vous permettent d'adhérer. Nous n'avons pas de subvention, nous n'en voulons pas d'ailleurs. Et ce sont vos adhésions et ce sont également les publicités qui sont dans notre écho de la Roberso et que nous donnent nos annonceurs, c'est-à-dire les artisans et les commerçants de la Roberso, qui nous permettent de faire fonctionner l'association. Donc nous serions très heureux que vous puissiez adhérer à l'association de la DIR. Dernier point, la soirée va commencer dans quelques secondes. Jusque vers 9h, moins le quart, 9h, vous aurez des projections et des commentaires de Jean-Daniel. Et ensuite, vous pourrez réagir si vous le désirez. Je vous remercie.
Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci d'être venus en nombre à cette soirée qui est concernée à la qui concerne la géothermie. La géothermie, en réalité, est un terme générique qui recouvre différentes techniques destinées à utiliser la chaleur de la Terre. Certains cherchent à entretenir une confusion en mélangeant les différentes techniques, les expériences et les méthodes employées, en espérant bénéficier des résultats d'une méthode sur une autre, pour justifier les autres méthodes. Alors la première chose, c'est de regarder qu'est-ce qui distingue les différentes techniques de géothermie. La chaleur de la Terre provient de la désintégration d'éléments nucléaires, d'éléments radioactifs présents dans les roches du noyau terrestre qui génère un flux de chaleur vers la surface. Contrairement à l'image qu'on pourrait avoir, ce n'est pas le magma de la Terre qui réchauffe la partie supérieure, mais ce sont des décompositions de matériaux nucléaires naturels qui créent cette chaleur pour 87%. La géothermie est une énergie renouvelable, à condition que l'on prenne cette chaleur avec beaucoup de précautions. Il faut savoir que, de toute façon, l'idée d'un puits géothermique à grande profondeur, c'est une durée de 30 ans. Au bout de 30 ans, la chaleur est épuisée et il faut 200 ans environ, pour que la chaleur puisse se reproduire. Donc la géothermie n'est pas une des calories reproductibles à vie. Une petite vidéo qui va vous
la
présenter...
La géothermie est l'utilisation par l'homme de la chaleur de la Terre pour produire de l'énergie. Plus on descend en profondeur dans la croûte terrestre, plus la roche est chaude. En dehors des zones volcaniques, la température augmente de 2 à 3 degrés tous les 100 mètres. Cette chaleur provient de la profondeur de la Terre et de la radioactivité naturelle. Plusieurs procédés permettent de récupérer cette énergie. La géothermie très basse énergie se contente de forages peu profonds, moins de 100 mètres. La température de la roche y est inférieure à 30 degrés. De telles températures conviennent pour chauffer des maisons individuelles sur lesquelles il faut installer un système de pompe à chaleur. La géothermie basse énergie nécessite de s'enfoncer plus profondément, avec des températures entre 30 et 150 degrés. L'eau de pluie, qui s'infiltre dans le sol et se réchauffe au contact de la roche poreuse, est extraite par forage. Il peut alors être nécessaire de réalimenter les nappes aquifères. Ce système est souvent utilisé pour du chauffage urbain collectif ou de grands bâtiments. La géothermie haute température nécessite, elle, d'atteindre 1500 mètres de profondeur. La température dépasse les 150 degrés, elle permet de produire de l'électricité. La géothermie est souvent considérée comme une énergie renouvelable. Ce n'est pas si simple. En extrayant la chaleur d'une partie de la roche, elle finit par se refroidir. On parle donc de gisement géothermique, comme pour une mine de charbon. Si on ne l'exploite plus, un gisement peut se reconstituer. Mais il faut des dizaines, voire des centaines d'années.
Voilà, donc cette vidéo vous a montré qu'il y a trois types de géothermie. La première, c'est la géothermie peu profonde, à basse température. C'est l'utilisation connue des pompes à chaleur au haut. Cette technique est éprouvée et ne présente normalement aucun danger. Les puits sont en général descendus jusqu'à 15 mètres maximum dans une nappe phréatique qui est à 12-15 degrés. La pollution de la nappe a parfois été constatée lorsque les puits ne sont pas étanches par rapport à la surface. Lorsque la nappe est plus profonde, la réalisation devient plus délicate. L'exemple que tout le monde connaît dans notre région, c'est celui de l'Orvillers. Le puits a été descendu à 150 mètres de profondeur, a rencontré en cours de forage une poche d'eau sous pression qui a provoqué des inondations dans les caves. La suite est plus difficile à appréhender. Il y a une action judiciaire qui est en cours. Le BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière, avait été appelé par l'expert judiciaire en tant que sapiteur. Et le BRGM a envisagé, évoqué la possibilité de boucher le puits dans sa partie haute. Ce que l'entreprise qui était chargée des travaux a réalisé. Mais l'eau sous pression, puisque c'était bouché par le haut, s'est alors écoulée dans une couche de gypse présente dans le sous-sol. Cette couche aurait gonflé et provoqué des dégâts impressionnants dans les maisons et les routes que la plupart d'entre vous connaissent, du moins par ce que les journaux en ont et la télévision en ont rapporté. La société qui a fait les travaux a mis en cause le BRGM et il est inhabituel de mettre en cause en justice un expert ou son sapiteur qui doit déterminer les causes et éventuellement suggérer les remèdes selon la mission qui lui a été confiée, que je ne connais d'ailleurs pas. En première instance, la justice a estimé que le BRGM ne devait pas être mis en cause. Cette décision est tout à fait compréhensible en droit, mais laisse tout de même planer un doute sur la capacité du BRGM de connaître et les connaissances du sous-sol. Le BRGM a signé un accord avec l'ADEME, l'Agence de l'environnement et la maîtrise de l'énergie, pour promouvoir la géothermie. Donc l'indépendance du BRGM dans notre cas est discutable. À l'heure actuelle, le dossier est en appel, donc il est difficile d'aller plus loin. La deuxième technique, c'est la géothermie semi-profonde à moyenne température, dite à basse énergie. Habituellement, l'eau est comprise entre 30 et 100 degrés, la profondeur atteint entre 1000 et 2000 mètres, et l'eau chaude est utilisée pour le chauffage en réseau de chaleur uniquement. Ce type de géothermie est présent sans problème dans tous les grands bassins sédimentaires du monde. De nombreuses régions sont concernées. En France, le bassin parisien et le bassin aquitain fournissent des eaux géothermales depuis de nombreuses années et dans la région parisienne chauffent plus d'une centaine de mille de logements. La caractéristique principale de cette technique réside dans l'aquifère qui est constitué de roches fracturées et de sédiments gorgés d'eau sous une couche imperméable. Pour utiliser cette eau, il suffit de la pomper. Voilà la géothermie basse énergie telle qu'on peut la retrouver dans le bassin parisien. Vous voyez que parfois plusieurs centaines de kilomètres pour récupérer l'eau qui s'infiltre et c'est un réservoir d'eau quasiment dans lequel on pompe. En Alsace, il existe une référence qui s'approche de celle-là. C'est Rittershoffen. Les études géologiques ont mis en évidence la présence potentielle d'eau, ressources géothermales importantes, du fait d'une anomalie dans les couches géologiques. Que voici. Alors, le terme d'anomalie dans les couches géologiques est extrêmement important. Retenez bien, vous voyez le réservoir géothermal qui est ici, dans lequel on peut pomper et rejeter. Le granit est plus bas, ici, et habituellement, on ne rencontre pas ce type de poche. L'eau ici, à Rittershoffen, a une température de 150 degrés. Ce projet a bénéficié de soutien public important, car il y avait un risque géologique, parce que personne ne savait qu'il allait rencontrer ce réservoir géothermal exactement à cet endroit-là, même s'il y avait des présomptions, puisque ce forage a été placé à cet endroit précis pour alimenter une usine qui se trouve à 15 km de là. Donc ce sont quand même les études géologiques qui ont permis de déterminer un endroit précis où on pouvait forer. Certains veulent nous faire croire que les forages qui sont prévus à Strasbourg seront du même type. C'est un amalgame erroné qui est destiné à nous endormir, à nous tranquilliser, et que je qualifierais même de malhonnêteté intellectuelle. En réalité, à Strasbourg, il s'agit de géothermie profonde à haute température, où, dont le développement se fait selon plusieurs approches possibles. Ce qu'on appelle en anglais « hot dry rock », est une technique qui est basée sur la fracturation et la création d'un échangeur thermique profond qu'il faut régulièrement décolmater. La deuxième technique, c'est « hot fracture rock ». C'est la géothermie dans des roches naturellement fracturées. Enfin, le EGS est une technique qui a été imaginée aux États-Unis en 1970 et c'est cette technique qui a été mise en œuvre à Soultz-sous-Forêt dans le cadre d'un pilote européen, puis ultérieurement franco-allemand. En réalité, il s'agit d'ouvrir d'anciennes fractures. Le massif rocheux sollicité travaille surtout en cisaillement, voire en dilatance, et non en compression, comme dans le cas de schiste gazéifière. C'est une comparaison donc avec les fracturations hydrauliques de gaz de schiste. La pression hydraulique à appliquer en tête de puits est relativement faible, de l'ordre de 100 à 300 bars. Cette pression est extrêmement importante, puisque les exploitants nous disent que tous les sinistres proviennent de la pression en tête de puits. On va voir une petite vidéo.
Ici, l'objectif est d'utiliser la chaleur du sous-sol pour produire de l'électricité. Pour récupérer de l'énergie thermique dans le sous-sol, on injecte de l'eau en grande profondeur. Cette eau se charge en calories en circulant dans les fissures des roches chaudes. Remontée en surface, sa température avoisine les 200 degrés Celsius. Elle passe alors par un échangeur où elle libère ses calories avant de retourner dans le sous-sol pour se recharger. Ce circuit primaire fonctionne en circuit fermé. Le circuit secondaire, qui a récupéré les calories du circuit primaire à l'aide de l'échangeur, libère ensuite son énergie en alimentant une turbine à vapeur. Cette turbine fait tourner un alternateur qui produit de l'électricité. Mais cette technique de production d'énergie électrique, si simple soit-elle dans son principe, nécessite en réalité la mise en œuvre de techniques complexes. La première difficulté est bien sûr de travailler en aveugle, puisqu'à ce jour, il n'existe aucun système de caméra permettant de voir à travers 5000 mètres de roche.
Voici un schéma de l'usine de Sulz. Ce projet à Sulz a subi, depuis ses débuts en 1987, un certain nombre d'avatars. Un premier forage a été réalisé jusqu'à 2000 mètres, puis approfondi jusqu'à 3600 mètres. Suivi d'une stimulation pour essayer d'augmenter la circulation de l'eau. Un deuxième puits a été foré jusqu'à 3880 mètres, suivi d'un test de circulation pendant 4 mois. Ce dernier puits a été approfondi ultérieurement jusqu'à 5080 mètres, suivi d'un forage d'un troisième puits avec stimulation, et d'un quatrième à 5270 mètres, également avec stimulation. Un test de circulation entre les trois derniers puits a duré 5 mois, conduisant à des stimulations chimiques complémentaires, le premier puits n'étant plus utilisé, étant un peu décentré par rapport aux trois autres. Ces avatars montrent que la géologie profonde de la région, bien que située près de Pechelbronn, où de nombreuses recherches ont été conduites dans le cadre de la recherche pétrolière, que cette géologie profonde n'est pas parfaitement connue de nos spécialistes. Le projet a notamment montré qu'il existe un risque sismique lié au forage profond et à l'injection d'eau à de très grandes profondeurs. 200 000 mètres cubes d'eau avec des acides ont dû être injectés pour nettoyer les fractures entre les roches. C'est ce qu'on appelle la stimulation. Le test de circulation d'eau mené en 2010, donc début des travaux en 1987, 23 ans après, on en est à faire des tests de circulation. Vous voyez que les précautions nombreuses ont dû être prises pour arriver à la vitesse de ce projet. Et ces tests de circulation d'eau ont induit 400 séismes dans l'année, dont 4 d'une magnitude supérieure à 2. Le 2, c'est le niveau de perception par l'homme des séismes. Depuis le début des forages, une grosse dizaine de séismes perceptibles par l'homme. En 2011, toutefois, le chiffre de ces séismes a été réduit à 5. Les défenseurs de la technique de géothermie profonde opposent la simulation hydraulique à la fracturation hydraulique. La différence entre ces deux techniques repose principalement sur la pression avec laquelle l'eau est injectée dans les puits pour nettoyer les fissures, voire lorsque dans la fracturation hydraulique, de créer des nouvelles. La fracturation s'effectue sur une partie horizontale du forage, nous y reviendrons tout à l'heure, jusqu'à 600 bars. L'eau injectée est jusqu'à 600 bars en tête de puits, soit 5 km plus bas, entre 1000 et 1100 bars au fond du puits, puisqu'il faut rajouter la pression de la colonne d'eau. Lors de la stimulation, qui est la technique utilisée en géothermie profonde, on ne dépasse pas normalement 100 bars en tête, c'est-à-dire 5 à 600 bars au fond, mais un certain nombre d'exemples à Landau, à Bâle et ailleurs ont montré que les accidents arrivent principalement lorsqu'on augmente la pression en tête. On nous a su, les promoteurs de cette technique, la société Fonroche pour la Robertso, nous garantissent qu'on ne dépassera pas 100 bars en tête de puits. Mais un forage coûte environ 15 millions. Que se passe-t-il si l'on constate, après avoir dépensé 15 millions et atterri à 4, et qu'on arrive à 4000 ou 5000 mètres, que la circulation n'est pas suffisante? Qui empêchera les sociétés exploratrices d'appuyer sur le bouton, d'augmenter un petit peu la pression? Et c'est dans ces cas-là, d'ailleurs, que Bâle, Landau, Soultz ont pu constater des séismes provoquant des dégâts. Qui peut contrôler que jamais les exploitants dépasseront les 100 bars en tête? Personne, parce que les organismes officiels sont tous liés par des accords et des pactes pour développer la géothermie profonde. Donc, il n'y a plus, à ma connaissance du moins, d'organismes officiels crédibles pour contrôler ce qui se passe dans un forage de ce type. France Nature Environnement est d'ailleurs radicalement opposée à la géothermie à très grande profondeur, avec stimulation hydraulique. Plusieurs raisons à cela. Même si la technologie n'est pas strictement la même que celle nécessaire à l'exploitation des hydrocarbures de roche-mère, les gaz de schiste, l'image donnée n'est pas positive pour la géothermie profonde. D'autant qu'il y a des points communs, comme par exemple l'agressivité de l'eau pour les forages très profonds et les risques sismiques accrus en cas de réinjection. À mon avis, la puissance du lobby en faveur de la géothermie profonde, son manque de clarté dans les explications, parce que comme vous l'a dit tout à l'heure Jacques Gratécos, nous avons vu plusieurs personnes, plusieurs organismes, les futurs exploitants, si le forage se réalise, Et ce que nous avons pu constater, c'est que les réponses à nos questions varient considérablement selon les personnes avec qui on parle. Ce qui veut bien dire que les choses ne sont pas arrêtées, qu'ils ne savent pas exactement où ils vont, et puis qu'on essaye de faire quelques expériences. On peut même dire qu'il y a eu un certain nombre de mensonges. Donc, on pourrait... J'extrapole. C'est une idée toute personnelle qui ne s'appuie pas sur des faits. Mais on pourrait penser que la phase actuelle n'est qu'une préparation en vue d'habituer la population à l'exploitation des forages avec fracturation hydraulique pour la recherche de gaz de schiste. C'est une théorie qui m'appartient, que je ne partage qu'avec moi. Un autre point est celui de la rentabilité du projet, qui tient par l'achat de l'électricité à un tarif réglementé qui va contribuer à alourdir votre facture d'électricité. En effet, le prix d'achat minimum du kilowatt produit par une installation de ce type est de 200 euros le mégawatt, soit 2,5 fois le tarif d'achat des kilowatts éoliens. Beaucoup plus que le kilowatt nucléaire, mais celui-là, je peux vous dire que personne ne sait exactement ce qu'il coûte. 200 euros le mégawatt, mais il faut rajouter encore une prime de régularité, ce qui fait que le coût du mégawatt sera de 250 à 280 mégawatts. 2 euros de mégawatt. Et la différence de prix, c'est vous qui la payez chaque mois ou tous les deux mois lorsque vous avez votre facture d'électricité de Strasbourg. Vous regardez, il y a une ligne qui s'appelle contribution aux charges du service public. Voilà, CSPE. Et c'est cette CSPE qui va permettre à EDF d'acheter le courant de ses produits par ses installations à un tarif extrêmement élevé. Il y a plusieurs projets en Alsace. Le premier projet qui devait se réaliser, c'est celui d'Egbolsheim. Le terrain a été choisi parce qu'il se trouve près de Haute-Pierre, qui permet de raccorder l'installation au réseau de chaleur. Le suivant, c'est juste à côté de chez nous. Maintenant, on ne sait plus pas ce qui permet de se raccorder au réseau de chaleur de l'Esplanade. Maintenant, on ne sait plus très bien lequel est le deuxième et lequel est le premier, parce qu'au début, il y a quelques mois, on va faire avec Bolsheim, ensuite on transportera le Derrick au port au pétrole. La dernière fois que Fonroche a parlé de ses projets, il a dit on va faire des études géologiques complémentaires et en fonction des études géologiques complémentaires, on décidera lequel est le premier. Là encore, comment peut-on aujourd'hui dire on va faire des études géologiques qui ne savent même pas comment se trouve le sous-sol ? C'est un peu bizarre. Pour ces deux projets, Fonroche a fait un groupement avec deux sociétés allemandes de forage, la société Herrnknecht et Anger, et ils ont obtenu un accord de l'Union européenne pour 17 millions pour le financement de ces deux projets. Il faut savoir que les sociétés allemandes, Herrnknecht est la plus grosse société de forage en Allemagne, qui fabrique des machines également, et elle a participé à un certain nombre de projets qui ont créé les difficultés qui sont connues. Il y a d'autres projets dont on entend parler, puis on nous les oublie, personne n'en parle plus, on ne sait pas très bien. Une société qui s'appelle Moore Géothermie, qui est une sociétés des pays nordiques, je crois suédoises, qui a un accord, une autorisation de faire des sondages sur 100 km². À Ilkirch, c'est le troisième projet très sérieux à l'heure actuelle. C'est l'électricité de Strasbourg Géothermie qui doit être réalisée par enquête publique en 2015. À Soufflenheim, il y a à nouveau la société Moor Géothermie. Cette société, nous n'avons pas eu de contact avec elle. On ne sait même pas qui elle est, où elle est, etc. Enfin, elle a demandé des autorisations. Riedershofen, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est une réalisation uniquement pour la production de chaleur pour l'usine Rocket, qui se trouve à 15 km et qui sera reliée par un réseau de chaleur. Il y a des études en cours pour Wissembourg. Voilà les projets en Alsace, et vous voyez que nous sommes très riches en projets. Il y a depuis hier une nouveauté. Vous voyez ici Neuried, c'est en Allemagne. C'est le premier projet qui devait se faire, c'est à côté de Kehl. C'est le projet contre lequel la municipalité de Kehl a porté plainte contre la préfecture de Fribourg pour essayer de le stopper. Et aux dernières nouvelles, on ne sait pas encore, c'est à prendre avec des pincettes, le conseil municipal de Neuried a décidé de ne pas prolonger la location du terrain sur lequel devait se faire le forage. La société qui devait faire le forage a jusqu'à fin de cette année pour l'acheter. C'est à mon avis un peu court. Tout laisse à penser qu'il y aura de nouvelles négociations en 2015, mais la municipalité de Neuried a pris ses responsabilités. Oui. Non, alors les deux et 6 mégawatts mentionnés dans les projets. Non, c'est. Voilà. Ce sont des puissances électriques produites et les résidus vont en réseau de chaleur. C'est en plus le bénéfice de l'opération. C'est-à-dire que l'eau qu'on remonte est environ à 150 degrés dans ces projets. À partir de là, on fait de la vapeur avec un fluide frigorigène qui bout à 15 degrés environ. Cette vapeur est transférée dans une turbine qui produit l'électricité. Et à la sortie de la turbine, la chaleur est condensée dans le réseau dans les réseaux de chaleur. La puissance calorifique du réseau de chaleur est plus importante que la puissance électrique. De chaleur après, oui. Tout à fait. Pardon. Oui, je vais finir. Mais vous pouvez retenir votre question pour la fin, comme ça je répondrai. Si vous voulez, je veux bien qu'on m'interrompe, ça ne me dérange pas, mais interrompez-moi sur des questions que vous n'avez pas compris dans mon exposé. Je sais que c'est très technique, donc ça peut être un peu difficile de compréhension, mais sur des questions plus générales ou plus pratiques, merci d'attendre la fin. Alors, on va revenir. Donc, voilà la situation. Alors, cette carte est intéressante parce que les dégâts qui ont été constaté dans d'autres forages peuvent s'étendre dans un rayon de 10 km autour du forage. Donc, s'il y a des dégâts... s'il y a des dégâts par ici, quel serait le forage qui les aurait provoqués? Nous y reviendrons tout à l'heure dans la question des assurances. Alors, à la Robertso, voilà le projet de Font Roche. Les habitants de la Robertso le reconnaîtront très facilement. Ici, vous avez des citernes. Ici, vous avez des citernes. Ici, vous avez des citernes. Un peu plus loin, vous avez rubis et PPR, etc. Donc, c'est directement au milieu de 415 000 mètres cubes de stockage de produits chimiques et de produits inflammables. La société Font Roche a déposé en juillet 2013 une demande d'autorisation d'ouverture de travaux miniers pour 4 forages de géothermique sur ce terrain. Ils avaient obtenu au préalable un permis exclusif de recherche de Strasbourg sur le site du port autonome de Strasbourg. Il faut noter que dans tous les documents, et chaque fois que Font Roche parle, il parle du port autonome, il ne parle jamais du port au pétrole. Parce que le port autonome, c'est une institution vague. Et le port au pétrole, à côté, ça ne fait pas très bien. Voilà la technique utilisée qui répond peut-être en partie à une des questions. C'est-à-dire on pompe, on a des échangeurs, une valorisation thermique, une valorisation électrique qui produit donc avec une turbine, un générateur, une production d'électricité et on valorise les thermies dans un réseau de chaleur. Alors l'autorité environnementale qui a reçu le dossier de 2013 a trouvé qu'il y avait plusieurs lacunes et a demandé, a recommandé à Font Roche de soumettre des compléments au dossier avant l'enquête publique. Font Roche a simplement retiré ce dossier et en a présenté un nouveau en juillet de cette année. À l'heure actuelle, nous ne disposons que du résumé non technique de ce dossier, mais on ne voit aucune différence par rapport au premier dossier technique, si ce n'est que l'autorité environnementale avait fait remarquer qu'il y avait une espèce de lézard qui est protégé au niveau européen et qui avait ses habitats sur ce terrain. Font Roche a répondu qu'ils feront une demande de dérogation. Alors, quelle approche prévue pour le projet ici à la Robertso? C'est extrêmement difficile de savoir, de connaître les détails, puisqu'encore une fois, lorsqu'on pose des questions, on nous répond des choses différentes. Mais on peut imaginer qu'il s'agira de géothermie stimulée, puisque Font Roche mentionne la fissuration du socle. Donc, on voit bien qu'il y aura au minimum une stimulation. Les dangers sont bien connus. Nombreux microséismes, un certain nombre plus important perçu par l'homme, pouvant provoquer des dégâts dans un rayon de 10 km. Nous avons été très étonnés d'entendre la DREAL, donc la Direction régionale de l'équipement, dire que la stimulation sera inutile parce que ce sera le même système que Rittershofen. Mais comme nous l'avons vu, Rittershofen est une anomalie et il y a très peu de chances que cette anomalie se retrouve au port au pétrole. Et puis le choix du terrain du port au pétrole est fixé par la possibilité de raccorder au réseau de chaleur de l'esplanade, car le directeur des travaux de Font Roche nous a dit qu'ils avaient cherché un autre terrain et qu'ils n'avaient rien trouvé. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a à cet endroit-là un cas particulier où ça va être particulièrement facile de forer, c'est parce que cet endroit se prête à l'utilisation de ce qu'on va obtenir. Donc, ça laisse très mal augurer de l'objectivité de ceux qui devraient contrôler. Alors, ici, nous avons une petite liste de dégâts à Soultz, à Bâle, à Saint-Gall, à Landau. Les dégâts constatés nous font poser une question. Comment se comporteront les installations déjà anciennes du port au pétrole, cuves et tuyauteries, encore une fois 415 000 mètres cubes de produits inflammables ou chimiques, qui seraient soumis à de nombreux micro-séismes, avec quelques séismes plus importants. Le BRGM a écrit, mais avant qu'il signe la convention avec l'ADEME, que tous les sites de ce type, géothermie profonde dans le monde, ont dû faire face à l'occurrence de micro-séismes pouvant être ressentis par les populations, avec des conséquences parfois néfastes. Le phénomène de sismicité induite, bien que connu, n'est pas encore complètement compris physiquement par les scientifiques. Ces remarques sont corroborées par de nombreux articles internationaux que l'on peut analyser. Le BRGM a fait disparaître cette citation de son site internet dans les derniers mois. Du moins, je n'ai plus été capable de le retrouver. Et on peut se poser la question, pourquoi, en sachant que le BRGM a été chargé par le gouvernement du développement de la géothermie profonde. L'indépendance est en question. On nous dit que la pression en tête de puits sera limitée à 100 bars. La stimulation des failles nécessaires pour développer la connectivité entre les puits et les fractures nécessite l'injection avant exploitation d'eau et d'adjuvants acides en grande quantité. À Soultz, en une semaine, on a envoyé 200 000 mètres cubes d'eau mélangée à l'acide pour nettoyer les failles. Pour entretenir les performances hydrauliques, il est nécessaire de répéter régulièrement, mais ponctuellement, cette opération. Les acides et autres produits chimiques contenus dans ces injections d'eau dissolvent les minéraux présents dans les failles. Cette manœuvre produit une eau chargée de composés indésirables, sels minéraux, métaux lourds, radionucléides, qui sont pompés vers la surface. Mais Fonroche nous tranquillise. Ils ne veulent utiliser que de l'acide citrique, c'est-à-dire du jus de citron. Les risques de pollution de la nappe phréatique sont, paraît-il, nuls parce que les sociétés exploitant le principe vont mettre plusieurs tubes les uns dans les autres et puis entre les tubes, il y aura du béton. C'est exactement la même chose que les têtes de puits aux États-Unis du fracking pour la recherche de gaz de schiste. Et aux États-Unis, c'est maintenant une notion connue qu'il y a eu énormément de pollution des nappes phréatiques aux environs de ces forages. Tout le monde pensait que ça provenait du fracking à 4-5 000 mètres, du méthane qui remontait et d'autres. Or, il y a une étude toute récente qui vient de sortir aux États-Unis, qui a porté sur 150 têtes de puits environ, et ils se sont aperçus que la pollution des nappes phréatiques est produite par les têtes de puits. Parce que les tubes sont éventuellement de mauvaise qualité ou peut-être se sont corrodés très rapidement. Le béton, tous les constructeurs savent que du béton qui est soumis à des secousses sismiques à raison de plusieurs centaines par an, aussi faible soit-elle, le béton ne résiste pas. C'est pas du béton armé, c'est du béton simple. De toute façon, le béton n'a jamais été étanche. Donc, on peut raisonnablement se poser la question de la pollution des nappes phréatiques par ces systèmes. Le manque d'expérience sur la durée de forages similaires est inquiétant. À Landau et puis dans d'autres installations, les tubes de forage ont eu des fissures qu'il a fallu réparer, mais parfois très difficilement. Donc on voit bien que même si on prend beaucoup de précautions, il sera difficile d'empêcher un incident, voire un accident. Un autre risque qui nous a été rappelé par des scientifiques, c'est celui de la remontée de bactéries inconnues à ce jour qui proliféreraient à 4 ou 5 000 mètres de profondeur. Ces bactéries peuvent se nourrir de composés chimiques présents dans le sous-sol, d'hydrogène sulfuré notamment, du fer dissous. Et puis, comment allons-nous les combattre si on ne les connaît pas et qu'ils prolifèrent ? Comment empêcher la libération de radon ? Le radon est un gaz radioactif qui est contenu dans le fluide géothermal. L'eau chargée d'acide qui assure la continuité entre les fractures et le réservoir est récupérée dans des bassins de décantation à l'air libre. Des fuites sont également possibles sur l'installation. Voyez ici l'installation de Rittershofen et puis des réservoirs. Ici et là, les fuites sont toujours envisageables. Alors, Rittershofen, c'est une tour de forage ou un rig de forage. C'est ensuite des équipements complémentaires au mât de forage. C'est les services techniques. C'est les bassins de réception des déblais. Encore une fois, ces déblais sont chargés de minéraux, sont radioactifs. Il faut savoir que les déchets d'une telle installation ne peuvent être évacués que sous le contrôle de l'Agence nationale de l'énergie nucléaire. Les gens qui travaillent sont munis de dosimètres pour s'assurer qu'ils ne reçoivent pas une dose supérieure à celle qui peut être tolérée. Un grand bassin, 5800 mètres cubes, donc évaporation et éventuellement fuite dans la nappe phréatique. Enfin, traitement des boues. Un autre problème. Si Fonroche fort sur le terrain du port au pétrole que nous avons montré tout à l'heure. Où va-t-il aller ? Parce que ce n'est pas un forage vertical, puisque entre le puits d'injection et le puits de pompage, il faut au minimum 700 mètres, parfois jusqu'à 2 km. Donc les puits peuvent être déviés, même doivent être déviés. Alors, on fore au bord du Rhin. Et où va-t-on ? On va vers l'est, à Kehl, sous le port de Kehl. On va au nord, sous la forêt alluviale qui devrait, depuis déjà de nombreux mois être classée zone de protection, ou bien vers l'ouest, sous les maisons, sous ma maison peut-être. Personne ne sait. Et lorsqu'on demande à Fonroche, on a posé la question à Fonroche, ils nous ont dit non, on descend tout droit. C'est pas possible, parce qu'il n'y aurait pas de circulation réchauffant l'eau. Ce qui nous fait penser que Fonroche lui-même ne sait pas où il va. Et que c'est en cours de forage, selon les résultats géologiques qu'on peut obtenir. Un autre point important dans le dossier, il est stipulé, dans le cas improbable d'un débit important de gaz en fond de forage, le puits sera alors considéré inapproprié pour l'exploitation géothermique dont fermé conformément aux procédures en vigueur. Donc, a priori, on pense qu'il n'y aura pas de gaz quand on fort. Mais si jamais il y en a, Fonroche ne l'exclut pas. Alors on aurait du gaz qui sortirait au milieu des cuves du port au pétrole. Bien sûr, il n'explosera pas. Hein, c'est pour ça qu'on a fait un PPRT, d'ailleurs. Enfin, c'est assez extraordinaire de mettre de telles inepties dans un dossier. Ça montre bien l'imprécision de ces dossiers et les entreprises font en fait des expériences à chaque cas. La technique de géothermie profonde n'est pas mûre. Nous avons vu tout à l'heure que l'eau qui remonte chauffe un gaz frigorigène qui s'évapore à 15 degrés environ, donc qui produit de la vapeur qui fait marcher la turbine. Alors, on a aussi demandé à Fonroche, mais qu'est-ce que vous mettez comme gaz frigorigène? Parce qu'à Soule, c'est de l'isobutane. Alors, il y a 100 tonnes environ de ce produit au milieu de 415 000 m3 de stockage de produits hautement explosifs. Ah non, ils ne mettront pas d'isobutane. Ils mettront du R134A ou du R245FA. C'est quand même bizarre qu'à ce jour, on ne sache pas encore quel produit on va mettre. Alors, je suis allé voir ce que c'est. Le R134A, le Parlement européen a voté en mars les textes prévoyant l'interdiction. C'est quand même bizarre puisque ça a été écrit après mars 2014 et puis c'est en discussion au Parlement européen depuis un certain nombre d'années. Quant au R245FA, je suis allé voir la notice technique, la notice de sécurité du producteur, d'un des producteurs du moins, c'est Honeywell. Alors, vous pouvez lire vous-même, moi je l'ai en anglais si ça intéresse quelqu'un. Ce gaz peut s'enflammer en mélange avec de l'air sous pression en présence d'une forte source d'allumage. L'air sous pression, y en a dans la turbine. Contient des gaz sous pression qui peuvent exploser s'ils sont chauffés dans une turbine, et puis ils sont chauffés puisqu'ils ont fait de la vapeur. Peut former un mélange combustible avec l'air à une pression au-dessus de la pression atmosphérique. C'est le cas dans la turbine. Donc on va mettre 100 tonnes de ce gaz au milieu des 415 000 m3 de produits explosifs et inflammables. Encore deux points. Personne n'imagine que Fonroche est une société philanthropique. Elle veut gagner de l'argent, ce qui est normal dans la conjoncture, l'environnement économique où nous vivons. Mais comme je l'ai déjà évoqué au départ, les profits de ces sociétés seraient obtenus par ponction sur notre porte-monnaie à chacun d'entre nous. Donc l'Union européenne a déjà accordé des subventions, 17 millions pour les deux projets, Ecbolsheim et Port-au-Pétrole. L'électricité produite sera vendue à EDF, grosso modo avec la prime à 25 centimes du kilowatt. C'est un prix très élevé par rapport aux autres énergies. Et la SCPE financera EDF pour se payer ça. Mais pour fonctionner, L'installation nécessite environ le tiers de sa production pour faire tourner les pompes et les différentes installations. Mais ce tiers de la production ne va pas être déduit de la production vendue à EDF. Ils vont acheter sur le marché de gros le tiers de cette puissance et ils les achèteront à 5 centimes du kilowatt. Donc quelqu'un m'a dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne met pas simplement un moteur électrique et une dynamo, puisqu'on revend l'électricité produite 5 fois au prix de l'électricité achetée. La chaleur disponible ensuite sera distribuée dans les réseaux de chaleur. Le dernier point que je voudrais soulever, c'est le point des assurances. Que se passe-t-il s'il y a des micro-séismes ou des explosions, mais enfin restons au moindre danger, micro-séismes qui fissurent vos immeubles, nos immeubles, comme c'est arrivé à Landau, comme c'est arrivé à Bâle. Enfin, de toute façon, eux ne savaient pas. Les sociétés qui ont fait à Landau, à Bâle et ailleurs ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ce sont des cow-boys, comme un Français bien connu l'a dit. Fonroche, lui, il sait tout. Il a pris exemple sur toutes ces sociétés, il a appris chez eux. Seul problème, c'est que Fonroche n'a jamais foré un centimètre. C'est le premier puits qu'il veut faire. Alors, il s'est associé avec deux sociétés allemandes, mais en Allemagne, ces sociétés, elles n'ont pas supprimé les risques. Bon. Alors, que se passe-t-il en cas d'incident ? Bien, on peut prendre à Landau, par exemple. À Landau, la société qui a foré s'est assurée auprès d'une compagnie américaine, parce qu'elle n'a pas trouvé de compagnie allemande qui veuille bien l'assurer. Et les Américains disent, ah ben oui, ben prouvez-nous que vos fissures proviennent du forage. Ben, personne n'avait fait un constat d'huissier avant les forages, donc personne ne peut prouver que les fissures viennent du forage. Donc jusqu'à présent, à Landau, personne n'a été indemnisé. Alors, quand on dit ça à Fonroche, il nous dit « Ah oui, oui, mais attendez. Nous, en France, on est nettement meilleurs que les Allemands. C'est inhabituel, mais dans ce cas-là, on l'est. On a le code minier. Et le code minier nous impose d'être responsables des dégâts qu'on occasionne. Alors, je suis un peu allé voir ce que c'était ce code minier. Et puis, on s'aperçoit, par exemple, un seul exemple. En Lorraine, une affaire Sassilor-Lormine, où il y a eu des effondrements miniers. Et en 2007, la Cour européenne des droits de l'homme a pris un arrêté nommant un expert. Mais avant d'arriver à la Cour européenne des droits de l'homme, il y a eu première instance, cour d'appel, cour de casse, et puis ensuite on arrive au droit de l'homme. C'est-à-dire que c'est un dossier qui traîne depuis 15 ans, où la Cour européenne a décidé qu'il fallait nommer un expert pour trouver les causes et les responsabilités. C'est ça le droit minier. Un privé qui a eu des fissures dans sa maison, il va payer un avocat en première instance, un avocat en appel, un avocat en Conseil d'État, ce qui est particulièrement élevé, et puis ensuite devant la Cour. Ces grosses sociétés, ça leur est bien égal, ils ont des avocats qui payent à l'année. Donc ça, c'est un gros, gros problème. Donc si les forages débutent, je ne peux que vous conseiller de faire à vos frais un constat d'huissier sur l'état de votre maison. Toutes les activités techniques provoquent des risques. Ceux-ci sont accrus lorsque la technique est au début, est au balbutiement est en voie de développement, ce qui est le cas pour la géothermie profonde. Les craintes sont légitimes lorsque les expériences précédentes montrent que des sinistres se sont produits plus ou moins importants. Ici, à La Robertso, nous avons une circonstance aggravante. Ce sont les 415 000 m3 de stockage. C'est à vous de dire et d'écrire le mois prochain, lors de l'enquête publique, que vous êtes d'accord avec ce projet qui produit de l'électricité et de la chaleur sans CO2, ou que vous n'êtes pas d'accord. Je vous remercie beaucoup de votre, voilà ce dont on a parlé, du financement. Mais je voudrais terminer par une citation de notre ministre. C'est pas tous les jours que je fais appel à elle. Mais ce qu'elle dit me semble particulièrement juste. Les certitudes arrogantes assénées par les décideurs n'aident ni à réparer le présent, ni à préparer l'avenir. Le temps est à l'efficacité et à la morale de l'action publique. Il est aussi à l'association des citoyens aux décisions qui les concernent. C'est bien ce que je vous disais. C'est à vous de montrer votre volonté en allant le mois prochain à l'enquête publique qui s'ouvrira. Merci beaucoup pour votre écoute.